Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis médecin. Je vous remercie pour votre récente émission sur l'antibiorésistance. Ça me semble très important de prendre conscience de l'impact de notre système de santé sur le vivant et sur l'environnement, et aussi de repenser notre lien et nos relations avec le milieu microbien, que ce soit bactéries ou virus. Ça me semble assez urgent. Alors, je sais que c'est un sujet très tabou que vous aborderez peut-être jamais, mais de manière plus générale, il me semble important de repenser l'impact environnemental de tous les médicaments, que ce soit en amont de leur fabrication, notamment la dépendance au pétrole, et leur devenir, la pollution qu'ils engendrent, par exemple les pilules hormonales. C'est pour culpabiliser évidemment personne, et quand on a besoin d'un médicament, il faut bien sûr le prendre, mais ça peut être intéressant de reprendre conscience et voir comment on peut repenser notre santé, notre corps et les liens qu'on a avec le vivant. Merci beaucoup, au revoir.
Oui, bonjour, Charles du Maine-et-Loire. Je vous appelle suite à la chronique de Camille Cronier sur les banques. J'aurais aimé savoir si, par hasard, vous aviez des solutions à apporter, car je suis, bien entendu, au Crédit Agricole, non pas par choix vraiment, mais j'ai une épargne à la nef et attends avec grande impatience à ce qu'ils puissent ouvrir des comptes courants. Mais pour le moment, il n'y a pas de nouveau à ce sujet. Si vous pouviez traiter de ce genre de choses, s'il vous plaît. Et merci pour la qualité de vos émissions qui m'aident à tenir toute la journée. Bonne journée. À bientôt.
Bonjour, Benoît de Bretagne Sud. En réponse à l'auditeur qui disait qu'il y en avait marre du collage d'affiches, ben oui, mais moi je colle et on se fait décoller dans la commune d'à côté par le maire, par exemple, qui envoie ses équipes municipales pour décoller. Eh ben, par exemple, pour un meeting comme dimanche, Mélenchon fait 8000 personnes à Montpellier, personne n'en parle. Voilà, donc le collage a encore deux jours devant lui.
Oui, bonjour, c'est Laurent, là, du Var. Je vous appelle pour répondre à Martial. Donc moi, je suis facteur. Et au sujet des voitures électriques, justement, que les voitures électriques n'arrivent pas au bout de leur tournée. Donc chez nous, tout se passe bien. Alors certes, c'est le Var, mais il fait aussi froid dans leur pays. On utilise des essuie-glaces et des embuyages. Et c'est vrai que ça use plus de batterie. Mais moi, j'arrive au bout de ma tournée. Tous mes collègues arrivent au bout de leur tournée. Et j'étais d'autant plus séduit par les voitures électriques que je me suis acheté une vraie moi-même. Voilà, bonne journée.
Et voilà, le répondeur, ça sert aussi à ça, à vous répondre pour échanger vos expériences entre membres de la communauté de la Terre au Carré. Charles, vous qui vouliez des renseignements sur les banques, eh bien, je vous conseille de réécouter l'émission que nous avions consacrée à la finance et au climat et qui expliquait, entre autres, le levier que nous avions en tant que citoyens pour choisir des établissements bancaires qui n'investissent pas dans les énergies fossiles. Vous tapez Terre au Carré, finance et climat sur votre moteur de recherche et vous tombez dessus directement, sinon le 01 56 45 45. 01 56 40 45 45, c'est le numéro de téléphone du répondeur de la Terre au Carré. Que ce soit l'amour des vieilles pierres ou la passion pour un lotissement flambant neuf, le rêve de la petite maison semble bien ancré dans l'esprit de tout un chacun. Symbole social pour les uns ou recherche de la tranquillité pour les autres, posséder sa maison et son sacro-saint jardin est un archétype toujours très présent dans nos désirs d'habitat individuel. Aujourd'hui, la moitié des logements en France sont déjà des logements individuels, mais faut-il continuer à en construire ? À l'heure de la crise écologique, la construction de nos maisons aurait en effet de nombreuses conséquences négatives sur l'environnement. Et à l'heure où l'étalement urbain ne cesse de prendre de l'ampleur, le modèle du pavillon est-il encore soutenable ? C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie qui consacre cette semaine une série d'articles à cette question. Et pour en parler, nous sommes avec la journaliste Héloïse Le Sier, l'urbaniste Sylvain Grisot et l'écologue Brian Padilla. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue Héloïse Le Sier, c'est vous qui signez donc la série d'articles sur Reporter.net, article disponible donc à partir d'aujourd'hui pendant 4 jours sur le site du journal. Sylvain Grisot, vous êtes urbaniste, fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine. Vous êtes l'auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire publié l'année dernière chez Apogée et vous venez de publier avec Christine Lecomte Réparons la ville toujours chez Apogée. Et puis Brian Padilla, vous êtes écologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et chef du projet de recherche et d'expertise sur la compensation écologique. Allez, on se retrouve dans un instant donc pour parler maison individuelle, étalement urbain et aussi habitat collectif. avec toutes les questions et messages des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec le koala classé dans les espèces en danger par le gouvernement australien qui promet de tout faire pour les protéger, mais beaucoup y voient surtout une petite manœuvre politicienne, je vous explique.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisée par Valérie Ayestara et préparée aujourd'hui par Anna Massardier avec à la technique Ludovic Asselot.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Nous devons assumer de mettre ce modèle derrière nous. Nous devons assumer de passer tous ensemble au modèle d'après.
Voilà la voix d'Emmanuel Wargon, ministre du Logement. C'était le 14 octobre dernier à l'occasion d'un discours consacré à la consultation citoyenne Habiter la France de demain. Et ces propos, vous le rappelez, Héloïse Lecier, dans votre article de reporter, eh bien, ils ont provoqué quand même pas mal de réactions, à la fois de la part de certains professionnels de la construction, et puis aussi probablement qu'ils ont contrarié pas mal de Français qui ont ce désir quand même d'achat de maisons individuelles. Est-ce que la ministre finalement a bien fait quand même de mettre les pieds dans le plat? Parce qu'elle pose le sujet dont on va parler cet après-midi, hein, finalement.
Ben, c'est vrai qu'il y a un sujet, et c'est justement la question qu'on a voulu aborder dans ce dossier, puisque, en réalité, il y a bien un problème avec les constructions de maisons neuves. Ce problème, c'est l'artificialisation des sols, donc la destruction d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Hein, je cite les chiffres de l'Observatoire de l'artificialisation. Chaque année, en moyenne, entre 2009 et 2017, 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers sont artificialisés et 68% de ces espaces ont été transformés pour construire des logements et ouais, principalement des maisons individuelles. Donc voilà, il y a vraiment un sujet. En plus, on construit de plus en plus loin. C'est ce qu'on appelle donc de plus en plus loin des centres. Ouais. Donc c'est l'étalement urbain. Donc il faut ajouter des infrastructures et des trajets en voiture, une autre source de pollution. Ça fait effectivement beaucoup d'impact, ce qui n'empêche pas le secteur de bien se porter. Hein. Ouais. La Fédération française du bâtiment a annoncé qu'entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2021, les ventes de maisons neuves ont progressé de 16,3%.
Ouais. Alors évidemment, il ne s'agit pas de montrer du doigt hein, tous ceux qui aspirent à avoir un jour une maison individuelle. C'est pas ça l'objet, évidemment. C'est de montrer les problèmes que ça pose et qu'on ignore d'ailleurs, Sylvain Grisot, probablement lorsqu'on a ce désir, par exemple, de pavillon. Hein.
Sans doute, c'est plus qu'une forme urbaine, plus que cette maison quatre façades, comme disent nos amis belges, autour de laquelle on peut tourner. C'est un modèle finalement. C'est plus qu'un modèle urbain, c'est un modèle de vie. Et on est dans des processus qui sont connus, sur lesquels il est normal. Et plus exactement, il n'y a pas d'autre solution pour des ménages aux revenus normaux qui habitent par exemple dans une métropole que de s'éloigner finalement du cœur de la ville et de devenir dépendant de sa voiture ou plutôt de ses voitures en allant faire l'acquisition d'un pavillon, certes, mais qui est surtout un pavillon trop loin. Alors, je pense qu'on en parlera. La question, c'est pas la maison, c'est pas une forme urbaine. La question, c'est un modèle de production de la ville, qui est ce modèle pavillonnaire qui, avec d'autres, hein, avec d'autres éléments de composition de la fabrique de la ville, va pas dans le bon sens, ou en tout cas est tout à fait contradictoire avec nos enjeux du siècle.
Et on verra les solutions qu'on peut trouver, évidemment, pour essayer de changer un petit peu les choses, parce que ça agit concrètement sur l'écologie. Là aussi, évidemment, on va en parler. Brian Padilla, étalement urbain ou artificialisation des sols, qu'on n'aime pas du tout de prononcer à la radio, c'est exactement la même chose ou pas du tout? Si on pouvait se contenter d'étalement urbain, ce serait parfait. Hein.
Je pense qu'on peut garder les deux termes pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on parle d'artificialisation, on renvoie à un interminable débat sur la définition de ce que c'est. Et finalement, cette définition, elle va dépendre vraiment du phénomène qu'on veut observer. Donc on vous a donné tout à l'heure une définition qui est celle qui est le plus reprise dans le débat public, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour un autre usage. On comprend bien que là, c'est une définition qui est finalement assez statistique. C'est sur cette base que sont calculés les taux d'artificialisation depuis les années 80 et pour autant, bah, elle fait pas forcément consensus selon les disciplines qui vont observer des phénomènes un peu différents. Par exemple, en écologie, on dira plutôt qu'un espace est artificialisé quand il présente plus les caractéristiques d'un écosystème qui évolue librement, ou alors qu'il est plus géré de manière à favoriser la diversité du vivant. Donc dans ce cas-là, l'artificialisation, c'est plus un état, mais c'est un processus en fait d'appropriation et d'occupation humaine des espaces qui va avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement des écosystèmes. Et ça, il faut évidemment le différencier de l'étalement urbain, parce que tout dépend en fait de comment est-ce qu'on va s'étaler, comment est-ce qu'on va construire et comment est-ce qu'on occupe l'espace.
Est-ce que l'artificialisation des sols, ça va de pair avec la dynamique démographique ? Est-ce que là où on bétonne, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants, Sylvain Grisot ?
Pas forcément en fait. Si on regarde de façon un peu plus précise cette question de la consommation de sol, hein, le changement d'usage des sols, on s'aperçoit qu'en fait on a un phénomène qui est pas aussi évident qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire plus d'habitants égale plus de surface de ville. Il y a une forme de logique qu'on a tous en tête.
Ouais.
Dans les faits, c'est pas ça. On a par exemple un quart du sol qui est consommé pour l'habitat, donc de la surface des lotissements en France, qui sont dans des communes qui perdent des habitants.
C'est incroyable quand même. Donc il y a pas du tout de lien en fait.
Alors, il y en a évidemment à des échelles macro, à des échelles de régions par exemple, ou de grands territoires, mais sauf que quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'on peut avoir des territoires attractifs qui sont extrêmement sobres en foncier, parce qu'ils vont gérer différemment, et puis que leur périphérie finalement vient surconsommer du foncier dans des formes de rivalité territoriale, de lutte d'attractivité. Mais en fait, il y a plusieurs façons de faire la ville, c'est ça que ça démontre.
Ça veut dire quoi, Louise Le Sieur, qu'en fait, il y a des habitats aujourd'hui qu'on pourrait qualifier d'occasion, enfin des maisons qui ont été construites il y a déjà plusieurs années, qui sont inoccupées, et pendant ce temps-là, on fait construire quelque chose de neuf un peu plus loin, en laissant vide certains autres.
Oui, c'est vrai, c'est un peu le raisonnement qu'on peut avoir. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, il y a aujourd'hui 3 millions de logements vacants en France. Donc ça représente 8,3% du parc immobilier. La commission Rebsamen sur la construction de logements dit qu'il faudrait construire entre 2,7 et 3,9 millions de logements supplémentaires sur la période 2017-2030. Donc on pourrait se dire il suffirait d'occuper les logements qui ne le sont pas. C'est pas aussi simple que ça, parce que ces logements sont pas forcément là où les gens veulent habiter, et en plus ils ont pas forcément la taille ou le format qui est recherché. Il n'en reste pas moins qu'il y a un taux de vacances élevé dans des villes qui sont aussi très demandées, par exemple des quartiers de Paris, Marseille ou encore Lille. Et c'est pour ça que je suis allée voir à la métropole de Lille une société publique locale qui s'appelle la Fabrique des quartiers et qui a été créée justement pour s'attaquer au problème des logements vacants et des habitats anciens dégradés. Donc elle va notamment aller chercher les propriétaires de logements vacants ou dégradés et résoudre les situations au cas par cas, essayer par exemple d'inciter les propriétaires à rénover leurs biens, les orienter si besoin vers des aides à la rénovation, accompagner les cas d'indivision, hein, quand des hérités ne sont pas d'accord sur l'avenir du bien et puis en attendant on le laisse vacant. Et cette fabrique des quartiers à la métropole de Lille, elle va même jusqu'à lancer des procédures d'expropriation.
Ouais.
Donc ce que je trouve intéressant, c'est de montrer qu'il y a des leviers possibles, ils sont pas évidents, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a aussi des solutions.
On va en parler tout à l'heure, hein,
parce qu'on
va même taxer des propriétaires qui laissent justement leur logement vide. Mmh. C'est une façon en tout cas de lutter, elle est critiquable ou pas, mais en tout cas c'est une des voies envisagées. Sylvain Grisot, donc ça veut dire que même là où on trouve des villes qui se dépeuplent, le béton continue quand même de couler. Comment on explique ça alors exactement ?
En fait, on est sur un mode de fabrication de la ville, moi j'appelle ça quelque part la ville facile, où on s'est organisé aller globalement depuis les années 70, hein, qui est le début de cet éloge du pavillonnaire sur lequel on a dit aux Français, hein, qu'il fallait devenir propriétaire et qu'il fallait être propriétaire d'une maison. C'est la fin de la politique de la reconstruction avec les grands ensembles, le locatif social, etc. Et on a progressivement un système qui est organisé autour de ça, autour de la construction de quelques modèles immobiliers standardisés, hein, notamment le pavillon, mais pas que. On peut mettre aussi l'immeuble défiscalisé de centre ville ou de centre de métropole dedans, mais le centre commercial aussi, etc. Et on a progressivement, à chaque fois qu'on a un nouveau besoin, finalement un réflexe, une priorité qui est donnée à la construction neuve, essentiellement dans la périphérie ou des grandes opérations.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a oublié une chose importante, c'est que la ville s'est toujours faite sur elle-même, hein, qu'on a toujours retravaillé à la fois des logements, mais des bâtiments pour les réhabiter et leur changer d'usage, pour basculer sur une forme d'industrialisation massive, hein, de la production urbaine, qui aujourd'hui un enjeu économique, hein, extrêmement important. Le slogan « Quand le bâtiment va, tout va », il résonne encore hein, dans l'oreille de beaucoup. À juste titre, c'est une partie importante de notre économie.
Brian Padilla, on verra avec vous dans un instant quelles sont les conséquences écologiques justement de cet étalement urbain, parce que ça veut dire aussi des terres agricoles en moins et donc des conséquences aussi directes, par exemple pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et on en parle avec les questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr. You're not alone. I'll wait till the end of time. Right. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attracts superstar. Crystal Palace, brat, brat, brat. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I gave him my all. East or south, we're dreaming it all. Body hot like cooking for long. We like to make love like wilder dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot like cooking for long. We like to make love like wilder dogs. I was on his side, east or south, we're dreaming it all. Ran towards the last thought I could find. Yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing up my bags, not saying my goodbyes. Also used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, 'cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that went on the common green. Getting off the 6 of oysters just to spend my baby. And I was just getting to know myself. The city broke me in inside, dialing my confidence up about my hair and my skin. Yeah, you're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I give him my all. East or south, we're dreaming it.
Listen,
all.
Had to clean up my heart, mind, body, and soul. The London city's my home. She love me, fair, come, babe, leak at your toes. Build bricks in the sticks, can we remake though? Invest my flow to my young boy, look in your book and grow. Back then, used to boot like we do up pro. Now his fins, we part from the block back days, cause we show down shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and no hood on glow. The bandos beaming, my pastry comes from rotating phones. Gun step to the hood's gone clear, so much patience is greatness, can we bake and toast? Don't go, scar practice means perfect, girl, if you don't know, leave it to me, I'll call.
Started at a country girl, Wally Head and Gabby Grant. Had to change a couple schools, cause I wasn't fitting in. Take it straight to London, dream it big and let it grow. Just so you know. Feel so alone when the city gets cold. I've known that I'd make it since I was a young girl. The world is right there, I hear it calling. But home is a place that makes my heart sing. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me.
Elle s'appelle FK Twigs avec Darjeeling.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Allez, on parle étalement urbain et maison particulière dans la Terre au Carré en partenariat avec Reporter.net qui consacre donc une série d'articles à partir d'aujourd'hui sur ce sujet avec nos invités Louise Lecier, Sylvain Grisot et Brian Padilla. Est-ce qu'on a les chiffres, Louise Lecier, justement sur la part du logement individuel, collectif et les entreprises aussi par rapport à cet étalement urbain, ce que ça représente en occupation des sols aujourd'hui?
Donc 68% des espaces ont été transformés pour construire des logements.
Oui, donc c'est une très grosse part, hein, voilà. L'occupation des sols, oui. Quasiment 70%. Et voilà. On peut imaginer, Sylvain Grisot, que les 30 autres pourcents, c'est quoi alors des entreprises?
Alors aujourd'hui, on trie, c'est l'activité économique en tout cas, et sur lequel il y a une partie importante ces dernières années qui est tirée par le développement des secteurs logistiques. Hein. Ouais. Au-delà des débats qu'il y a pu y avoir sur un certain nombre d'acteurs du e-commerce, plus globalement, l'activité logistique est aujourd'hui extrêmement consommatrice de sol, essentiellement agricole.
Alors, Brian Padilla, avant de passer aux questions des auditeurs, quelles sont les conséquences concrètement écologiques sur justement les sols, le fait de s'étaler, et pourquoi est-ce qu'on dit dans cette émission que finalement que le pavillon individuel y pose un certain nombre de problèmes ?
Alors les conséquences, elles sont nombreuses. Et d'abord, il faudrait peut-être rappeler en quelques mots quelles sont les fonctions écologiques que remplissent ces sols. D'abord, on peut rappeler que le sol remplit des fonctions de stockage, de filtration et d'épuration des eaux. On peut rappeler aussi qu'il séquestre du carbone, bien sûr, que dans certains cas, il participe à la rétention de certains contaminants, mais aussi, surtout, que c'est le support de la biodiversité. Et pour ça, je rappellerai que la biodiversité, d'abord, c'est bien sûr l'ensemble du vivant, qui inclut la diversité des communautés d'espèces, mais aussi la diversité génétique au sein d'une espèce, mais c'est aussi les interactions au sein de cet ensemble et avec son milieu de vie. Et bien souvent, l'interface, ce milieu de vie, c'est les sols, parce que c'est un milieu de vie de beaucoup d'espèces, un support de végétation qui permet à nombreux habitats naturels d'exister et aux espèces de les occuper. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on estime que 90% des organismes vivants passent toute ou partie de leur vie dans les sols. Donc évidemment que les conséquences sur la biodiversité lorsqu'on artificialise, au sens où je vous le disais tout à l'heure,
donc on les prive de ces interactions.
Exactement, hein. On simplifie, on homogénéise, et c'est ça qui est une des conséquences principales de l'érosion de la biodiversité aujourd'hui.
Ouais, donc il y a les terres agricoles, les terres forestières également.
Et bien sûr, et les terres et les espaces naturels. Et ce qu'il faut bien entendre dans ce que je dis là, c'est que l'intensification des usages, y compris en milieu agricole et forestier, a des conséquences sur ces fonctions des sols, ouais. Et donc sur la capacité à la biodiversité à s'exprimer. Donc quand on parle d'artificialisation en écologie, on y inclut aussi des intensifications d'activités humaines dans les milieux agricoles et forestiers.
Et Louise Lecier, le fait de bétonner, ça a des conséquences par exemple sur le sol, sur les inondations, sur l'eau, sur les nappes phréatiques. Tout ça, ce sont des conséquences directes, hein, du fait de vouloir s'étaler.
Oui, parce que y a pas juste la maison, hein, y a les infrastructures qui l'accompagnent, surtout si c'est un nouveau lotissement. Donc ensuite, il faut le ramassage des ordures, les réseaux électriques, etc. Et puis aussi les routes et les trajets en voiture. C'est
qui
vraiment
permettent d'arriver dans ces nouveaux lotissements, par exemple.
En plus, les places de parking, c'est ça aussi. C'est pas juste finalement l'emprise de la maison, mais aussi tout ce qui l'accompagne.
Camille, pas mal de messages, beaucoup de messages même.
Ouais,
déjà, hein.
Alors Françoise nous écrit par exemple, quand on veut investir dans l'ancien, on paye des frais de notaire plus élevés et on n'a pas de dégrèvement d'impôts, d'où de beaux bâtiments dans les villes, villages et campagnes à l'abandon. On a Aude d'ailleurs qui témoigne, je vous en fais plusieurs, hein. Aude témoigne, elle habite en Alsace dans un village de 800 habitants. Elle nous écrit qu'elle ne comprend pas qu'il y ait des maisons vides depuis 10 ans dans son village et que pendant ce temps-là, on construise du neuf à côté. Et dernier message que je vous donne, Sylvain Grisot de Sandrine, pour rebondir sur ce que disait Françoise. Il y a 15 ans, nous dit-elle, nous avons voulu devenir propriétaires dans la ville dans laquelle nous enseignons, Issoire, ville dynamique de 15 000 habitants. Avec nos deux salaires, la solution la plus économique était de faire construire une maison avec 3 chambres et un terrain à 7 km en zone pavillonnaire, 200 000 euros avec un emprunt sur 20 ans. Sylvain Grisot, il y a évidemment une raison économique à tout ça.
Complètement. On a en fait un problème de coût comparé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne paye pas tous ces services écosystémiques, hein, rendus par les sols qui sont consommés par l'étalement de la ville. On ne paye pas non plus le sol agricole aux agriculteurs, hein, on paye très peu, même si pour beaucoup c'est finalement la seule façon d'avoir une retraite, hein, une retraite digne. Ça veut dire que travailler dans la ville, venir réhabiliter un logement, un bâtiment, etc., finalement coûte cher, parce qu'aussi on a les histoires du passé, hein. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'amiante dans des bâtiments, c'est des sols pollués, etc., etc. Donc, il y a des vrais niveaux de complexité. Donc, on a industrialisé la fabrication de la ville dans la périphérie, où on va avoir des modèles de production sur lesquels on est extrêmement efficace et on sait tenir les coûts, notamment parce qu'on ne paye pas les coûts induits, par exemple, par la mobilité induite par l'étalement de la ville, etc., etc. Après, fondamentalement, et ça a été posé par une des auditrices, il y a une problématique fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien aussi tout un montage réglementaire et fiscal qui touche à la fois les ménages, mais aussi les collectivités locales. Ce fait qu'elles sont incitées, quelque part, par notre fonctionnement économique, à faire toujours plus loin.
C'est ce que vous montrez, Louise Lecier, hein, que du côté des acheteurs, le rêve de la maison est alimenté justement par de nombreuses incitations financières et des aides. Donc ça veut dire que les politiques publiques, elles offrent concrètement toute une palette de soutien à l'accès à la propriété individuelle.
Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas toujours le premier choix, hein, la construction. Moi, j'ai rencontré des gens qui, au départ, avaient un projet de rénover une maison, et puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était moins cher de faire construire. Donc, c'est pour ça que on le disait tout à l'heure, hein, c'est important de pas pointer du doigt juste les personnes qui font construire, mais d'expliquer que ça s'inscrit dans un contexte.
C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques, en l'occurrence fiscales, qui sont totalement incohérentes avec les enjeux écologiques, finalement.
Alors, elles changent, elles varient, ça dépend des contextes, mais effectivement, oui, elles sont plus tout à fait en cohérence avec les objectifs affichés là.
Sylvain Grisot.
Il y a un vrai enjeu d'alignement de l'ensemble des politiques publiques avec cet objectif-là. C'est-à-dire qu'à un moment, regarder notre cadre réglementaire et fiscal à l'aune de ces enjeux-là, de façon à ce que ça aille dans le bon sens. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits au niveau national pour regarder ça de façon détaillée. Il y a aussi l'autre question, c'est comment est-ce que, alors qu'on a passé 50 ans finalement à construire du neuf dans la périphérie, et donc on le fait extrêmement bien, eh ben on repasse le prochain demi-siècle à travailler à la ville déjà là, et ça veut dire que là aussi, on va avoir des gains d'économie d'échelle. Parce qu'on a des problèmes d'argent, mais on a des problèmes aussi de disponibilité des entreprises, de savoir-faire des architectes, de savoir-faire des opérateurs. Et là-dessus, il y a une montée en puissance aussi de cette filière de construction de la ville sur la ville qui est nécessaire.
Sylvain Grisot, vous dites finalement, si on se projette en 2050, il y a déjà tout ce qu'il faut pour loger la population aujourd'hui ?
Alors,
sans qu'on ait besoin d'en rajouter dans des constructions neuves.
Pas nécessairement, parce que ça a bien été posé sur cette question, par exemple, des logements vacants. Ils sont pas nécessairement au bon endroit, ils ont pas nécessairement la bonne forme, etc. Par contre, si on se projette sur 2050, on a un petit rendez-vous à 2050. Va falloir qu'on s'en préoccupe avant 2049.
Ouais. Hein, c'est sûr.
Qui est à la fois un objectif de décarbonation de la ville.
Neutralité.
Et c'est pas une paille. Hein, là, sur la stratégie nationale bas carbone, c'est 95% de réduction de l'impact du secteur du bâtiment. Donc on pourra changer les 3 millions de chaudières fuel qui traînent encore en France, ce sera bien, mais ça fera pas la solution. C'est-à-dire qu'on n'a plus que globalement 20% à construire de la ville de 2050, parce que c'est très long de faire la ville. Très long. Ça veut dire que faut le faire bien, c'est 20% de neuf. Il faut le faire au bon endroit, faut le faire de façon écolo aussi, mais qui correspondent aux besoins des ménages. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de logements familiaux dans les métropoles, pas nécessairement de petits logements défiscalisés, mais ça veut dire surtout qu'il faut attraper, adapter finalement les 80% du déjà-là, hein, pour à la fois baisser leur empreinte carbone, mais les mettre au rendez-vous aussi de nos modes de vie, simplement de changement de nos pratiques pour qu'ils correspondent à nos besoins.
Brian Padilla, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme finalement sur notre façon d'envisager la ville dans laquelle nous allons habiter là dans les décennies qui viennent au fond. Hein.
Oui, bien sûr, et c'est assez intéressant parce que ça entre en résonance avec certains objectifs de neutralité qui sont beaucoup discutés ces temps-ci. Alors on peut bien sûr parler de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, c'est le rendez-vous peut-être que dont parlait Sylvain à 2050, ouais. Et qui finalement s'inscrit déjà dans des objectifs de neutralité qui se dessinent petit à petit dans le droit français ces dernières années. Par exemple, il faut rappeler aussi qu'avec la loi biodiversité de 2016, on avait déjà formulé un objectif d'absence de perte nette de biodiversité pour l'ensemble des projets d'aménagement qui étaient susceptibles de causer des impacts sur la biodiversité lorsqu'ils étaient réalisés. Donc tout ça en fait est évidemment lié, et c'est dans ce cadre-là qu'on doit réfléchir à comment est-ce qu'on peut atteindre cette neutralité, et surtout est-ce qu'on peut l'atteindre. Et à ce titre-là, je pense que ce qu'il est important aussi de rappeler, c'est que tous les outils de l'instrument de l'action publique qui sont mis à disposition pour essayer d'atteindre ces objectifs, ils sont souvent perçus comme des solutions alors qu'en fait ce sont des conditions. Il faut qu'on montre qu'on arrive à atteindre cette neutralité lorsqu'on propose un projet pour qu'il soit acceptable, et pas parce qu'il existe des outils qu'on se dit qu'on va pouvoir y aller, aménager à outrance en dérégulant tout ça, parce que non, on a des limites et c'est ça qu'on essaie de montrer.
Et heureusement, des solutions, il y en a, et c'est ce qu'on va vous proposer dans la deuxième partie de ce dossier, en répondant bien sûr à vos nombreux messages qui arrivent sur le site de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et à 14h31, on passe au vert, Camille Cronier.
Et alerte roi des animaux trop chou, j'ai nommé le koala. Alors à ceux qui détestent qu'on parle de la mignonnité des animaux, sachez que j'ai fait exprès de l'introduire comme ça et vous allez comprendre tout à l'heure. Le koala que l'Australie classe désormais dans les espèces en danger dans plusieurs états de l'est du pays, le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et le territoire de la capitale Canberra. Ils étaient dans la catégorie en dessous jusqu'à la semaine dernière, c'est-à-dire vulnérables. C'est la ministre de l'Environnement, Suzanne Leakey, l'a annoncé.
Les koalas sont sous pression depuis longtemps, à cause du changement climatique, à cause des maladies et bien sûr à cause des incendies. Donc après les méga-feux, j'ai demandé à mes experts scientifiques de regarder si les koalas devaient être remontés sur la liste. Et la réponse est oui. Il ne s'agit que de prioriser leur protection. Tous les Australiens aiment ce marsupial extraordinaire.
Allez, elle en fait un petit peu des caisses, hein. Oui, vous avez très bien traduit, Mathieu.
Merci beaucoup.
Avec en plus la confirmation d'une enveloppe de 50 millions de dollars australiens, ça fait environ 30 millions d'euros. Mais son élan n'est pas tellement partagé par les associations environnementales. Tendez l'oreille, c'est un soupir qu'on va entendre. N'est-ce pas triste d'en arriver à ce stade alors qu'on aurait pu faire les choses tellement autrement, regrette Madame Koala Deborah Tabart, présidente de la Fondation australienne des koalas depuis plus de 30 ans. Elle explique à la télé australienne que Susan Lee, c'est sa 14e ministre de l'Environnement, 11 premiers ministres. Elle est très cynique sur le fait que le pays soit déterminé à sauver à la fois les koalas et la grande barrière de corail. Ils ont des doutes, oui, tous ces spécialistes, sur l'engagement véritable du gouvernement, parce que dans les faits,
there's a big, big gaps in the law where you can legally destroy koala habitat, kill koalas with bulldozers.
Il y a de gros décalages avec la loi qui permet de détruire les habitats des koalas, de les tuer avec des bulldozers, souligne Stuart Blanche du WWF là-bas, pendant que la sénatrice verte Sarah Hanson-Young enfonce le clou dans une vidéo.
On entend le Premier ministre et sa ministre de l'Environnement dire à quel point les koalas sont importants. Mais ils continuent pourtant de donner des permissions à des mines et de grosses entreprises pour détruire, réduire à néant l'habitat des koalas. Nous avons besoin d'un moratoire immédiat sur ces destructions.
Le gouvernement parle de 190 000 koalas restants sur la côte Est. Les associations avancent 40 à 80 000 maximum, 30% en moins depuis les incendies en 2019 et 2020. Pour Deborah Tabart, ils sont déjà en voie d'extinction. Ça veut dire qu'un koala à l'état sauvage aujourd'hui aura un petit qui pourra lui aussi avoir un petit. Et ensuite, ce sera fini. D'où l'urgence de tout faire pour les sauver, les protéger. Mais là encore, Madame Koala est sceptique.
With an election coming up, it seems pretty much like an election comment rather than genuine commitment.
Eh oui, il y a des élections aussi en Australie en 2022, ce qui lui fait penser un petit peu plus à une promesse de campagne qu'à un engagement réel. Et j'y arrive, ce petit comment déjà ?
Extraordinary marsupial.
Voilà, marsupial extraordinaire et tout mignon donc, une mascotte politique toute trouvée. J'en ai parlé avec Christy.
Hello, how are you ?
Volontaire de l'association Wires qui recueille chez elle au nord-ouest de Sydney des animaux blessés avant de les relâcher dans leur habitat naturel.
We've got a lot of birds in care at the moment.
Beaucoup d'oiseaux en ce moment, des kangourous, un bandicoot.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est très mignon, dit-elle aussi. Alors, je ne peux pas vous traduire bandicoot, mais elle m'a envoyé une photo. Ça ressemble à une musaraigne géante. C'est un autre marsupial australien. Et Christy soupçonne, elle aussi, une petite manœuvre politique.
Je pense que les koalas ont une super image, une grande visibilité, en particulier à l'international. C'est très bénéfique pour le gouvernement de dire que maintenant, ils s'en occupent. Mais est-ce que ça va vraiment changer la façon dont on gère ? Mystère.
Eh oui, mystère, hein, parce que par les 50 millions de dollars, aucun détail sur la méthode n'a été donné. Et c'est bien ce comment et les actes qu'attendent les défenseurs de l'environnement pour que le koala ne soit pas transformé uniquement en instrument politique tout chou en période électorale.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur la page de la Terre au Carré.
Brian Padilla, dans les causes évidemment de l'extinction, comme le disait Deborah Tabart, des koalas, il y a l'étalement urbain, on parlait des mines, mais il y a aussi évidemment beaucoup de constructions. Faut souligner que toutes ces constructions, quelque part, décalent les habitats des espèces et peuvent mener à leur extinction.
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire et c'est la principale cause actuellement de l'effondrement de la biodiversité. La perte et la fragmentation des habitats naturels qui est causée entre autres par ces processus d'artificialisation, c'est ce qui menace de très nombreuses espèces.
En France, par exemple ?
En France et en France comme partout. À savoir que ce soit des espèces qui soient à fort enjeu de conservation parce qu'elles sont emblématiques et parce qu'on sait qu'elles sont déjà en danger d'extinction, mais aussi des espèces qui peuvent être communes à très communes, mais dont on sait qu'il y a un déclin déjà prononcé qui est maintenant observé. On parle notamment, vous avez souvent des publications du muséum qui font état des suivis temporels des oiseaux communs de France avec des indicateurs qui sont très inquiétants sur la chute de ces oiseaux communs parce qu'on a une perte, une fragmentation de ces habitats, et c'est le cas pour de très nombreuses espèces. Ouais. Et ça, c'est lié bien sûr au fait que on supprime de l'espace pour que cette biodiversité s'exprime et qu'il faut le dire, le nœud du problème pour la biodiversité, c'est la place. Il faut lui accorder la place qui est nécessaire et la place, c'est pas seulement une unité de surface, c'est aussi une unité dans l'espace. Comment est-ce qu'elle s'organise ? Comment est-ce que tout ça est connecté ? Parce que je vous le disais, la biodiversité, c'est des échanges de gènes et donc il faut que tout ça soit pensé et et à aménager intelligemment pour que on puisse tous se maintenir.
C'est toujours un peu la question qu'on pose aux chercheurs, mais est-ce que vous pensez qu'il faut justement des espèces mignonnes, emblématiques comme ça pour essayer de sensibiliser à ces problèmes, hein? Est-ce que ça sert à quelque chose au fond ou pas?
Probablement que ça sert à quelque chose parce que ça a une répercussion dans l'opinion publique et ça amène le sujet dans le débat public. Par contre, je pense que c'est très important aussi de très vite se détacher de cette centralisation sur les espèces, qu'elles soient emblématiques ou pas, parce qu'à nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est la place, et c'est bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de parler de la préservation des espaces, et pour autant, c'est indispensable.
Et là, on reprécise qu'en Australie, ça fait des années qu'ils savent que le koala va pas très bien, et comme par hasard, ils sortent la carte en danger maintenant.
Allez, étalement urbain, maison individuelle et des solutions pour essayer de faire en sorte que les choses soient mieux pour l'environnement. On en parle dans un instant avec nos invités. C'est un dossier en partenariat avec reporter.net.
Je voudrais te revoir pour te dire tout bas des choses maladroites que l'on ne dit qu'une fois, mais te les dire à toi et t'ouvrir grand mon âme. Pour t'offrir enfin tout, tout ce qu'il faudra. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraint d'aucune loi, et j'ai l'ennui de toi, oui j'ai l'ennui de ça.
W. Hamon, je m'abandonne à toi.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier, sur France Inter.
Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Sarcelles, à 15 km de Paris, sur la route d'Amiens, un grand ensemble qui prévoit la réalisation finale de 10 000 logements. On est à peu près à la moitié de l'opération. Les arbres, voyez-vous, sont encore tout jeunes. À quelques centaines de mètres, Sarcelles-le-Vieux, un village traditionnel plutôt fatigué, qui a vu naître une ville nouvelle dont il ne sera bientôt plus qu'une dépendance.
Voilà, et c'est une archive de 1960. Alors pourquoi est-ce qu'on diffuse cette archive? Parce que on peut se poser la question, si le modèle du pavillon n'est plus soutenable aujourd'hui, est-ce qu'il faut à nouveau densifier les espaces urbains? Alors c'est une discussion évidemment qui suscite beaucoup de réactions. Héloïse Lecier, vous l'avez constaté, hein?
Dans toutes les villes où il y a des constructions, il y a de la contestation contre des projets immobiliers.
Mais est-ce que c'est la réponse justement à l'étalement urbain ou pas?
Disons que densifier, effectivement, on n'a pas vraiment le choix, je crois. Mais peut-être il y a une manière de le faire. Donc moi j'ai essayé aussi de m'interroger sur les manières de faire de la densification différemment.
Douce, hein,
ça. Voilà, j'ai rencontré une entreprise, Ville Vivante, qui parle de densification douce.
Oui.
Donc, elle accompagne, en fait, des propriétaires de jardins à construire sur leur terrain. C'est des personnes qui, par exemple, ne peuvent plus entretenir, qui ont un grand terrain. Eh ben, on va construire une maison sur ce terrain. Ou alors, on va aller aménager un rez-de-chaussée et puis louer un étage. En fait, faire des micro-projets.
Mais c'est pas l'idée de ces grands ensembles, là,
voilà,
comme à Sarcelles dans les années 60.
Aussi. Voilà, c'est ça. On va plutôt sur du micro-projet et du coup qui sont bien mieux acceptés par la population.
Mais on a Thierry, par exemple, qui nous écrit sur franceinter.fr. Quiconque a vécu un certain temps en collectif pourra témoigner du fait que vivre en collectivité n'a que des mauvais côtés et que quand enfin la vie nous permet de nous en échapper, quel bonheur! C'est une réalité aussi, Héloïse Le Sait, c'est ce qu'on disait au départ. Il y a un moment, effectivement, entendre les voisins en permanence, le bruit de la route, etc., ça donne envie de partir dans une maison individuelle.
Bien sûr, je pense qu'il y a aussi des choses à revoir sur la manière dont sont construits ces logements collectifs, hein. La manière de les isoler, être plus lumineux, hein, plus haut de plafond. Faut aussi améliorer, parce que sinon les gens, effectivement, ont juste envie de fuir.
Mais c'est fait, ça, concrètement, Sylvain Grisot, dans l'architecture aujourd'hui de ces logements collectifs? Est-ce qu'on pense vraiment au confort aussi, effectivement, sur le son, sur la hauteur?
Alors, il y a énormément de travaux qui sont assez récents, des rapports notamment sur la question de la qualité de logement qui ont été publiés, c'est de la qualité du logement sous-entendu, du logement collectif,
ouais.
Qui ont été publiés ces derniers mois. Globalement, on n'apprend pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on sait faire. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on sort d'une alternative complètement étanche entre d'un côté la maison individuelle de périphérie, ce modèle pavillonnaire.
Avec l'utilisation massive de la voiture.
Voilà, 30-40 km de l'emploi, etc. Et de l'autre côté, la cage à lapins. Globalement, entre la petite maison dans la prairie, le rêve pavillonnaire et les grands ensembles, l'image de Sarcelles, en tout cas celle de l'image des années 60, mais tout ce qui a été...
Il y en a dans toutes les villes.
Tout ce qui a été amené, oui. Très, très bon ouvrage qui vient de sortir de Renaud Epstein là-dessus. On a en fait énormément d'alternatives. Il y a toute une granularité entre les deux qui font que la maison n'est pas l'ennemi, que la maison a aussi sa place en ville. Avec la densification douce, on peut mettre des maisons à côté de maisons dans des lotissements existants. Ce qui fait qu'aussi, on a des formes de collectifs qui sont des formes de collectifs intermédiaires, peu d'étages, des espaces communs dans lesquels on a des espaces de partage. Bref, plein de choses qu'on voit en France parfois, beaucoup à l'étranger, mais qu'on fait pas assez souvent, très clairement.
On a aussi des questions, des témoignages. Perrine, par exemple, nous explique il est important de prendre en compte que grand nombre de constructions neuves sont issues de résidences secondaires dans certaines régions. Et Félix, qui est en Dordogne, nous dit que lui, il y a une maison sur deux qui est vide en hiver. Et puis une question de Julien qui demande, qui explique en fait, selon lui, que le modèle pavillonnaire accompagne le modèle du temps de travail. Donc moi, j'ai une question par rapport à ça, Sylvain Grisot. L'impact du télétravail qui est en développement, est-ce que quelque part, ça peut pas être contre-productif?
Ça peut.
Quitte les villes, on quitte les immeubles pour aller télétravailler ailleurs dans une maison.
Alors l'exode urbain, on en parle beaucoup, on le voit peu. Quand on commence à regarder les chiffres et qu'on fait autre chose que demander sa dernière impression
aux Parisiens,
quand on sort de l'épiphénomène du cas de Parisien qui part habiter dans la Drôme, il y a plein de changements qui sont beaucoup plus complexes que ça en fait. Et notamment le télétravail peut amener par exemple l'idée d'habiter plus loin, d'habiter à une heure et demie de l'emploi, parce qu'on va aller au bureau que deux fois par semaine. Ça veut dire que là, on a perdu à tous les niveaux. On a une dépendance automobile du ménage, et puis on a mis plus loin encore des gens qui vont faire des kilomètres en plus avec les émissions carbone qui sont associées. Donc c'est très bien, il peut y avoir une réduction, mais il y a aussi des effets rebonds qui peuvent être extrêmement importants. Donc on verra dans quelques années comment on atterrit sur ces questions-là. C'est une opportunité, mais ça peut aussi développer par exemple la birésidence, c'est-à-dire des ménages qui habitent non pas dans une, mais dans deux maisons.
Bah, c'est, donc là, effectivement, on a tout faux.
Il n'y a pas de logement.
Brian Padilla, on n'en a pas encore parlé, mais vous êtes dans un domaine de recherche qui est très intéressant, c'est celui de la compensation écologique, parce qu'on dit tout et son contraire sur la compensation. Est-ce que dans ce domaine de l'étalement urbain, justement, on peut compenser certaines terres, par exemple, qui auraient été perdues, et de façon efficace, et pas seulement du cache-misère?
Alors il faut remettre un peu les choses dans leur contexte et rappeler que d'abord la compensation écologique, c'est certes un outil qui permet éventuellement de générer un gain écologique parfois par l'utilisation de génie écologique, mais que c'est surtout l'étape d'un triptyque, d'une séquence que vos auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle la séquence éviter, réduire, compenser,
verser,
qui raconte bien sûr que la compensation, c'est la dernière et l'ultime étape de ce triptyque qui doit être suivi dans un ordre précis et insubstituable.
Ouais.
Donc, bien sûr, pour parler de compensation, on doit d'abord envisager ce qu'on peut éviter, ce qu'on peut réduire, et la compensation n'intervient que si on est en capacité de montrer que les impacts résiduels, ce qui reste après qu'on ait évité et réduit suffisamment, soit compensable.
Et alors, pourquoi, une fois qu'on y arrive, elle s'illustre comment, cette compensation ?
Justement, pourquoi ? Parce qu'on est en capacité, effectivement, parfois, de proposer des actions de génie écologique qui permettent d'avoir un gain de biodiversité, ça c'est certain.
Lesquelles ?
Mais il faut savoir aussi où est-ce qu'on va les faire. Mmh. Donc, dans la grande, grande majorité des cas, lorsqu'on réalise des actions de compensation écologique, en fait, on se contente de proposer des mesures qui améliorent un espace qui est déjà naturel, qui est déjà favorable à la biodiversité, mais qui peut accueillir certaines actions qui vont permettre d'en améliorer certaines composantes.
On pense toujours à replanter un arbre, par exemple, quand on parle de compensation, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a vraiment des choses qui sont efficaces et vertueuses écologiquement.
C'est en fait, quand on parle de planter des arbres, on fait souvent référence à la compensation carbone qui est assez différente. Là, en l'occurrence, quand on parle de compensation écologique, on parle plutôt de restauration d'espaces naturels. Alors, est-ce qu'on peut restaurer un espace qui est très fortement artificialisé et pourquoi pas désimperméabilisé ? Oui, très probablement, il y a des actions qui existent. On est capable de désimperméabiliser en cassant des couches de béton. On est capable d'essayer de revégétaliser des espaces qui ont été désimperméabilisés. Parfois, il faut passer par la dépollution mécanique. Parfois, la phytoremédiation est satisfaisante, mais il faut se rappeler que tout dépend des objectifs qu'on se fixe. À savoir, si on veut simplement essayer de rendre un petit peu des espaces favorables à la biodiversité, on peut envisager des actions des artificialisations qui sont cependant très chères, et donc c'est pour ça qu'on en voit très peu. Par contre, si nos objectifs, c'est de restaurer des systèmes qui ont un temps de maturation très important, qui sont le fruit de dizaines et de dizaines d'années, parfois de centaines, voire de milliers d'années de maturation, là, la compensation écologique, c'est plus une solution du tout, parce qu'on n'est pas en capacité de proposer des gains qui soient équivalents à ce qu'on perde. Dans la question de compensation écologique, il y a une notion clé, c'est l'équivalence. Est-ce qu'on est capable de recréer quelque chose qu'on a perdu ?
Et
très souvent,
ce n'est
pas le cas.
Et ça vient en bout de course, on l'a compris.
Exactement.
Encore.
Et même si on a beaucoup d'auditeurs là, qui nous écrivent, qu'en plus, souvent on parle de pavillon avec jardin, mais que ça n'a de jardin que le nom, est-ce qu'on pourrait imaginer, Brian Padilla, qu'un bout de jardin, malgré tout, dans un de ces lotissements, puisse d'une certaine façon être bénéfique au vivant qui est dans le coin ?
Bien sûr, parce que je vous le disais encore une fois, le facteur clé pour le maintien de la biodiversité, c'est l'espace qui est favorable à son expression. Dès lors qu'on peut avoir suffisamment d'espaces végétalisés pour permettre à certaines composantes de biodiversité, à certaines espèces d'accomplir leur cycle biologique, c'est intéressant. Par contre, ce qu'on disait aussi, c'est que les fonctions écologiques remplies par les sols, elles sont très nombreuses. Et parfois, il y a besoin que ce sol, il ait certaines caractéristiques que ne présentent pas des jardins. Donc, on peut avoir un intérêt à avoir des jardins parce qu'on peut avoir des modalités d'aménagement de ces jardins qui sont intéressantes pour la biodiversité. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ça remplace la consommation d'espaces fonctionnels ? Non.
Alors, plutôt que de construire de nouvelles maisons, autant rénover, si j'ai bien compris finalement ce que vous nous disiez. Et puis, il y a une opération qui a beaucoup marqué les esprits. Ce sont ces maisons vendues à 1 euro, par exemple à Roubaix. Alors, à quoi ressemblaient ces maisons ? 1 euro symbolique, par exemple, pour des maisons allant jusqu'à 140 mètres carrés. Écoutons l'extrait de ce reportage de France 2 en 2018.
1 euro, c'est quand même, c'est donné quoi.
C'est donné, c'est même pas le prix du terrain.
Je trouve que c'est une bonne initiative pour dynamiser la ville.
J'aimerais bien avoir une maison pour avec mon fils. Qui aura un jardin et tout pour que lui joue.
Au total, 18 logements inoccupés, propriété de la ville et de bailleurs sociaux. Tous sont situés dans les quartiers les plus anciens, aujourd'hui délaissés par les habitants. Alors dans cette commune où 4000 logements sont vacants, le maire préfère brader les maisons plutôt que les laisser à l'abandon et ainsi redonner une dynamique au quartier.
Ben, on a fait le choix de traiter ce problème en regardant les quartiers anciens. Et c'est vrai qu'on a envie qu'ils gardent leur âme. Et on voit très bien que dans une rue, une ou deux maisons abandonnées, ben, ça peut risquer de casser l'équilibre des quartiers.
Et donc, faire perdre la valeur aux maisons.
De faire perdre de la valeur et puis d'avoir des nuisances pour les voisins quand il y a des maisons abandonnées.
Alors Sylvain Grisot, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'opération, la maison à 1 euro ?
Eh ben écoutez, c'est une initiative, c'est une innovation finalement. On voit bien que les innovations, elles sont pas que technologiques, elles sont aussi sur les procédés et c'est extrêmement intéressant. Et ça nous montre une chose, c'est que là on a des gens qui inventent une autre façon de faire avec cette maison à 1 euro. Alors c'est pas n'importe qui, on a des opérateurs publics qui sont extrêmement investis, il y a un vrai savoir-faire derrière. Mais au même titre que la densification douce, c'est une autre façon de faire la ville, ben en voilà un autre exemple. Ça veut dire que si on veut sortir de la ville industrialisée en neuf, en périphérie, des grandes opérations, ben c'est plein de petites opérations partout dans la ville déjà candidats-là, qui demandent de faire autrement, qui demandent d'autres savoir-faire, d'autres façons de s'organiser, d'autres façons de financer, etc. Mais aussi d'autres façons d'en parler.
Et ça existe toujours, la maison à 1 euro ?
Alors, il me semble qu'il y a eu un certain nombre de démarches qui sont d'ailleurs diffusées dans d'autres territoires. Ouais. Et c'est assez intéressant de voir comment d'autres se sont inspirés des expériences de Roubaix.
Isabelle, qui est retraitée, qui a 63 ans, nous écrit qu'elle a fait le choix d'acheter une maison ancienne au centre d'un village qui meurt. Véritable passoire thermique. Il y a des aides, j'y ai droit, mais pour obtenir ces aides, elle nous dit, je suis obligée de mettre des lauzes et pas des ardoises, de mettre des fenêtres en bois cintrées à petits carreaux et pas du PVC grand vitrage. Panneaux solaires interdits puisque je suis à moins de 100 mètres de l'église classée. Conclusion, un chantier qui coûte 110 000 euros au lieu de 75 000 euros avec 20 000 euros d'aide. Bilan sur coût de 20 000 euros pour moi. Et ça, il y a plein d'exemples comme ça, Héloïse Lecier, avec des aides du coup insuffisantes ou avec des possibilités absolument amoindries. Comment on peut s'en sortir encore une fois dans tout ça ?
Bah, je pense qu'il faudrait effectivement mettre plus de moyens, un vrai fonds pour la réhabilitation des logements. Et puis il y a peut-être une question, c'est dans l'accompagnement de ces personnes. Hein. Il y a peut-être des métiers à inventer, des services à proposer.
Même pour trouver les bonnes aides, hein, pour être aiguillé vers les bonnes aides, parce que c'est aussi une foire finalement. Il y a beaucoup de choses à disposition.
Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous propose un projet clé en main, mais quelqu'un qui vous accompagne pour réhabiliter, c'est plus compliqué. Donc c'est peut-être là aussi qu'il faut chercher des solutions.
Sylvain Grisot, rapidement là-dessus.
Ben, on est sur cet enjeu-là de faire de la ville compliquée. Hein, c'est plus compliqué de travailler l'existant que d'aller faire une maison modèle dans la périphérie. On a besoin de développer des vraies ingénieries du conseil. Par exemple, de donner une vraie place à des architectes qui doivent s'investir là-dessus. Ce qu'on appelle avec Christine Lecomte.
Réparer la ville. C'est dans ce livre Réparer la ville que vous venez de publier et qui paraît aux éditions Apogée. Allez, encore quelques questions. Il y en a énormément pour vous. Dans un instant, on va faire le maximum pour vous en donner le plus possible. Juste après, Lily Allen, voici Smile. Lily Allen sur France Inter. Quelle solution pour faire face à l'étalement urbain ? On en parle avec Héloïse Lecier de Reporter.net, Sylvain Grisot et Brian Padilla. Alors, vous parlez d'un mouvement, Héloïse Lecier, dans vos articles de Reporter, sur l'habitat participatif, qui reste un mouvement assez timide encore en France. Mais il s'agit de quoi, alors, exactement ?
Oui, alors en fait, l'idée de l'habitat participatif, on dit aussi habitat groupé, c'est que chacun a son appartement dans un immeuble, mais en plus des espaces partagés. Souvent, par exemple, dans ce ceux que j'ai rencontrés. Donc il y a une buanderie, mmh. au lieu d'avoir chacun sa machine, et ben on a une salle avec des machines à laver. On a un salon, salle de réception. Chacun a son salon dans son appartement, mais en plus une pièce où il peut recevoir, faire des anniversaires.
On peut imaginer un jardin aussi partagé.
Et un jardin, évidemment.
Ouais.
Un jardin, évidemment.
Donc ça fait partie des solutions possibles pour gagner justement
voilà,
un peu en terrain.
Voilà, ça permet
en
fait de plus de partage et plus d'espace pour tout le monde.
Il y a aussi des hameaux légers dont on entend parler aussi. Il y en a de plus en plus.
Oui,
aussi...
et avec moins d'impact sur le sol en plus, les hameaux légers.
Julie nous écrit, nous sommes sur la Côte d'Azur, pays hyper attractif, région hyper attractive, n'est-ce pas ? Nous observons une poussée des maisons individuelles sans aucune anticipation. Dans notre cas, les besoins en eau ne sont jamais prévus. Et pourtant, dans notre secteur, c'est indispensable. Alors, Brian Padilla, on construit, puis on voit après les conséquences éventuelles.
Alors ça doit être de moins en moins le cas, en tout cas c'est ce qu'on espère. Pourquoi ? Parce que on s'attend à ce que la planification de l'aménagement, notamment dans les documents d'urbanisme, elle soit soumise à évaluation environnementale et que donc ces questions soient traitées. Alors il me semble que c'est assez récent le changement de la réglementation à ce sujet qui font que maintenant, vous me direz si je me trompe, Sylvain Grisot peut-être, l'ensemble des documents d'urbanisme doivent être soumis à évaluation environnementale. Avant c'était pas systématiquement le cas effectivement et on pouvait se retrouver dans des situations où la question environnementale n'était pas traitée.
Anne qui travaille en collectivité nous écrit aussi ce sont les élus locaux, n'oublions pas, qui maîtrisent ou non le devenir des terres. Aujourd'hui, parfois un élu préfère, écrit-elle, donner la priorité à un promoteur immobilier que conserver des terres. Sylvain Grisot, est-ce que finalement, moi j'avais une question à vous poser, est-ce que si on c'est très provocant, mais si on rasait toutes les vieilles maisons, etc., qu'il faudrait rénover, qui coûtent très cher à rénover, pour construire au même endroit, donc sur la terre déjà bétonnée, une maison neuve, est-ce que ça pourrait être une solution ou pas ?
On peut faire la simulation quelque part aussi sur des bureaux qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, etc., etc. En fait, et c'est ce qu'on défend beaucoup avec Christine. Tout ce qui tient debout, tout ce qui peut changer d'usage, doit être préservé. Il faut transformer plutôt que démolir. Pourquoi ? Parce qu'on a investi pas que finalement l'artificialisation d'un sol, même si c'est important. On a aussi investi du carbone dans une structure, et ça, il faut la conserver. Donc si on peut le conserver, il faut avancer. Par contre, ce travail sur l'existant, c'est une deuxième vie et c'est pas que un enjeu de réhabilitation thermique.
Brian Padilla, pour terminer, est-ce que les Français sont prêts à faire évoluer leurs habitats, selon vous, leur façon de vivre aussi ? Parce que ça implique beaucoup de changements, ce qu'on vient de décrire quand même.
Ça, c'est une très bonne question qu'il faudrait leur poser, bien sûr, parce que je suis pas sûr de pouvoir apporter la réponse à leur place. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a besoin de trouver la solution à mieux partager l'espace pour notamment préserver la biodiversité.
En tout cas, il y a des pistes de réflexion très intéressantes dans cette série de reportages que vous proposez, Héloïse Lecier, dans reporter.net à partir d'aujourd'hui. Donc, on peut se connecter. Il y en aura un par jour.
Le premier est en ligne aujourd'hui.
Voilà, jusqu'à samedi pour ceux qui cherchent des idées pour lutter contre l'étalement urbain et être le plus vertueux possible dans sa façon d'habiter justement les villes ou les zones urbaines. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles.